Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les titres de notre Zoom Info du jeudi 20 mars. Condamné en 2023 par la Cour d'appel de Montpellier à 5 ans d'inéligibilité et 1 an de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, le maire de Sète avait formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a annoncé hier qu'elle rendra sa décision le 30 avril. Une journée de mobilisation est prévue samedi 25 mars à Bédarieux pour dénoncer la possible fermeture de plusieurs classes à la cité Ferdinand Fabre. Nous nous entretiendrons dans ce journal avec une des enseignantes de cet établissement scolaire de Bédarieux. Le département de l'Hérault s'apprête à enfin voter son budget pour 2025. Normalement voté en début d'exercice, la validation de ce budget dit primitif qui devait avoir lieu en décembre avait été repoussée, la situation financière étant particulièrement critique. Un violent incendie a ravagé mardi 18 mars le site des vignobles Jean-Jean à Saint-Félix-de-Lodez. Des dégâts matériels conséquents, mais fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. La Fondation Abbé Pierre devient officiellement la Fondation pour le logement des défavorisés. Réunis mercredi 19 mars en formation restreinte, les conseillers de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont mis en délibéré l'affaire François Comaigne. L'arrêt de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire sera donc rendu le 30 avril. Après sa condamnation pour détournement de fonds publics le 9 octobre 2023 par la Cour d'appel de Montpellier, le maire d'hiver droite de Sète avait formé un pourvoi en cassation. Les juges avaient reproché à l'ancien sénateur le versement de sommes indues à un ancien directeur général des services de la ville et de l'agglo Sète Méditerranée. François Comaigne avait écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis et de 15 000 euros d'amende. Et la décision d'une peine d'inéligibilité de 5 ans, assortie d'une interdiction immédiate d'exercer sa fonction de maire, était tombée. Seul le caractère suspensif de son pourvoi en cassation lui a permis de se maintenir à la tête de la ville. À un an des élections municipales, un jugement défavorable pourrait précipiter la fin de carrière politique du maire de Sète, en poste depuis plus de 20 ans. Dans une vidéo de 8 minutes publiée sur son compte Facebook personnel, François Comaigne a choisi de commenter l'annonce de la date du délibéré de la décision de la Cour de cassation. Avant de revenir longuement sur sa version du dossier, il rappelle qu'il n'a pas eu d'enrichissement personnel dans cette affaire et affirme, comme il l'a fait lors des deux procès à Montpellier, avoir été, je le cite, « abusé par un ex-collaborateur, alors directeur général des services de la ville de Sète et de l'agglo. Abusé donc par celui-là même qui, de par sa fonction, est tenu de m'informer et me conseiller sur la légalité de toute décision que je suis chaque jour amené à prendre. » C'est indigné François Comaigne, qui parle aussi de fautes purement administratives. On en reparlera le 30 avril. La cité scolaire Ferdinand Fabre de Bédarieux, qui regroupe donc un collège et un lycée, est en émoi. Des fermetures de classes sont annoncées dans cet établissement, où sont scolarisés de nombreux élèves des Hauts-Cantons. Et les enseignants et les parents ont décidé de réagir. Une journée de mobilisation est donc prévue le 25 mars. Nous sommes avec Julie Delsistia, professeure d'anglais au collège. Madame, bonjour. Pourriez-vous nous faire un point sur la situation ?
Ben, comme vous l'avez dit, nous sommes une cité scolaire, donc un collège, un lycée, mais également une antenne à Saint-Gervais, un collège avec une centaine d'élèves. Et donc, nous avons appris la suppression de 3 classes, donc une 5e, une 3e, une 2e pour la rentrée prochaine.
Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui motive cette suppression de classes ?
Des baisses globales d'effectifs, donc moins d'heures qui nous sont allouées. Mais nous estimons que dans notre situation, c'est-à-dire que nous sommes un territoire rural et isolé, il n'est pas, enfin, la suppression de ces classes n'est pas justifiée parce que nous avons besoin d'aide supplémentaire, enfin d'aide. Comment dire, de moyens pour aider les élèves qui sont fragiles dans nos classes.
C'est-à-dire que la suppression de classes entraînerait des classes avec en sureffectif qui ne permettrait pas aux enseignants, aux AESH aussi également peut-être, d'accompagner comme il se doit les élèves de la cité Ferdinand Fabre, c'est ça ?
Oui, absolument. Et nous avons dans les classes actuelles de quatrième, il y a à peu près 25 élèves, dont un tiers ont des besoins spécifiques et sont reconnus par la maison départementale pour les personnes du handicap. Ils ont des PAP, donc c'est-à-dire des projets d'accompagnement personnalisé. Et puis, il y a des élèves qui sont simplement fragiles et qui ont des lacunes. Et tous ces élèves de quatrième se retrouveraient en troisième avec des effectifs de 29 par classe. Or, la troisième est une classe particulière avec le brevet à la fin de l'année. Il y a tout un travail sur l'orientation qui est fait et nous nous inquiétons de ne pas pouvoir mener nos missions correctement. De la même manière, les élèves de troisième actuellement, ils sont 25. Ils arriveraient en seconde à 32 si la classe de seconde est fermée. Et c'est comment dire, il y a vraiment une marche pour ces élèves de troisième quand ils arrivent en seconde, et tous les élèves de troisième actuels que l'on voit fragilisés risquent d'être davantage fragilisés une fois en seconde, et nous avons peur de les perdre.
Et donc vous avez décidé, madame, avec vos collègues et avec les parents d'élèves également, de vous mobiliser le 25 mars. En quoi va consister cette journée ?
Le 25 mars, oui, donc en accord avec le soutien et l'implication des parents d'élèves, nous mobilisons toute la journée. Nous faisons une journée de cité scolaire morte, donc mobilisation toute la journée devant l'établissement. Il y aura également une déambulation dans Bédarieux et une réunion publique le soir à 18h30.
Qui aura lieu où ?
La salle Achille Bex à Bédarieux.
Donc l'idée, c'est quoi ? D'être entendu, bon, d'une part, d'être entendu et soutenu, oui, par la communauté éducative, par les parents, j'imagine peut-être par les collectivités ou par le rectorat ?
Nous sommes déjà... Oui, voilà. Alors les collectivités locales nous soutiennent, nous entendent complètement, mais on aimerait être également reconnus jusqu'au bout dans notre ruralité. En fait, on fait partie d'un dispositif qui est le territoire éducatif rural. Donc c'est un réseau de coopération dont l'école est le point d'ancrage, et le but de ce TER, c'est de mettre, de porter les ambitions scolaires et l'orientation des élèves en milieu rural, parce qu'elle est comment dire, reconnue comme étant plus faible et plus fragile. Et on estime que si on fait partie de ce territoire éducatif rural, c'est qu'il y a bien une raison. Et donc, on aimerait qu'on nous laisse juste le peu de moyens qu'on a déjà, et non pas qu'on ne demande pas davantage. On demande juste qu'on ne nous enlève pas ce qu'on a là pour le moment, et qui nous permet simplement d'essayer d'accomplir nos missions au mieux et d'amener les élèves vers la réussite et vers l'obtention d'un diplôme. Et en plus, de garder l'attractivité de notre lycée, en fait, avec ses options et ses spécialités, parce que si fermeture de classe, ça veut dire qu'il y a moins d'offres, et moins des postes supprimés d'enseignants, et donc moins d'offres en termes de spécialités et d'options, et donc cela rend notre lycée moins attractif. Et donc, notre territoire moins attractif également. Donc
c'est un vraiment, appauvrissement c'est un impact, généralisé, un impact généralisé, en fait, qui ne se limite pas... Enfin, c'est déjà crucial, mais qui ne se limite pas à la qualité de l'enseignement ou au suivi des élèves.
Non, dans notre spécificité, vraiment, tout est très comment dire, interconnecté.
Et si je ne me trompe pas, madame, il y a à la cité Ferdinand Fabre, il y a 200, à peu près 260 élèves au lycée, et combien au collège ?
550 au collège, 260 au lycée et une centaine d'élèves au collège de Saint-Gervais. Ça fait à peu près 900 élèves.
Qui sont concernés par ces mesures, qui seraient, si jamais elles sont appliquées, elles seraient effectives à la rentrée 2025 ?
2026, oui, à la rentrée 2026, septembre 2026.
Ok. Ben, on reviendra certainement vers vous pour cette journée du 25 mars. Merci d'avoir échangé avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Au revoir, madame. Le 14 octobre 2024, le président du conseil départemental, Kléber Mesquida, avait indiqué en session publique que la situation budgétaire de la collectivité avait atteint un seuil critique. Le vote du budget 2025 qui devait avoir lieu en début d'année était ainsi reporté et aura donc lieu normalement les 24 et 25 mars. Le déficit paraît inévitable selon Kléber Mesquida. Nous ne sommes pas les seuls, 30 départements seront en déficit d'ici à la fin de l'année, 85% le seront à la fin 2025. Le président du département attribue une grande partie de ces difficultés à des charges imputables à l'État, mais non compensées. L'évaluation et la mise à l'abri des mineurs non accompagnés, l'extension de la prime Ségur aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, ou encore la hausse du RSA. Concernant les collèges, à la charge du département, environ 47 811 élèves ont fait leur entrée dans les établissements publics de l'Hérault en septembre. Un effectif en augmentation de 4 000 jeunes en 7 ans avait fait remarquer le vice-président du conseil départemental, Renaud Calva, à l'occasion du vote de la dotation de fonctionnement versée aux collectivités, par la collectivité aux établissements, soit 9 200 000 euros. Pour faire face à l'augmentation des dépenses liées à la restauration des élèves, la décision d'augmenter le prix unitaire du repas a été votée à l'unanimité et devrait passer de 4,10 à 4,60 euros à la rentrée 2025. Selon le département, le coût de revient du repas est actuellement de 10,14 euros et devrait passer à 11 euros. Pour tenter d'atténuer cette hausse pour les familles, la grille de tarifs sociaux, établie en fonction du quotient familial, est élargie d'une strate. Le prix du repas variera donc de 4,60 euros à plein tarif à 4,30 euros, 3,50 euros, 2,40 euros et enfin 1 euro pour les familles les plus en difficulté. La culture devrait aussi être durement touchée puisque, comme nous l'avons appris fin janvier, le département souhaite se limiter à ses dépenses obligatoires, c'est-à-dire principalement les écoles de musique et les médiathèques. Pour Kléber Mesquida, le budget 2025 nécessitera pour son équilibre un recours très important à l'emprunt de l'ordre de 140 millions d'euros, qui alourdira fortement son endettement. Il ne sera donc, selon lui, pas possible d'emprunter pour pouvoir accorder des subventions d'investissement aux collectivités locales. C'est l'heure du premier bilan après le spectaculaire incendie qui a frappé mardi 18 mars en fin d'après-midi les bâtiments des vignobles Jean-Jean à Saint-Félix-de-Lodez, près de Clermont-Léron, non loin des autoroutes A750 et A75. Nous avons perdu environ 150 000 bouteilles des cuvées des vignobles Jean-Jean et le bâtiment devra sûrement être rasé, soit plusieurs millions d'euros de dégâts, a indiqué Antoine Lessia, le président d'Advigny, au lendemain du sinistre. Le chiffrage exact des dégâts reste encore à établir. Aucun chômage technique ne serait pour l'instant envisagé par l'entreprise. Mardi 18 mars, donc vers 19h30, alors que le feu était maîtrisé, le colonel Vial, directeur départemental adjoint du 10-34, évoquait le risque d'effondrement des bâtiments touchés, après que la charpente avait totalement brûlé. Les sapeurs-pompiers ont maintenu une surveillance tout au long de la nuit de mardi à mercredi, de même que les gendarmes de la compagnie de Lodève. L'intervention, commencée vers 17h30, aura mobilisé 72 pompiers et 36 véhicules. L'outil de production et le siège historique de Jean-Jean et d'Advigny n'auraient pas été impactés par l'incendie, qui serait d'origine accidentelle. Et surtout, aucun blessé n'est à déplorer. Nouveau nom, nouveau logo, nouveau chapitre, mais toujours au service d'un même combat contre le mal-logement. C'est officiel, l'ex-fondation Abbé Pierre s'appelle dorénavant la Fondation pour le logement des défavorisés et entend réaffirmer le combat qu'elle mène depuis plus de 30 ans. Pour Sylvie Chanvoux, directrice de l'antenne régionale Occitanie de la Fondation pour le logement, et Christophe Robert, son délégué général, changer de nom n'est pas chose facile, mais nous nous devions de le faire par respect pour les victimes, nos équipes et les personnes mal logées. Cela constitue une étape importante de notre histoire, nécessaire pour conserver notre capacité d'action, garantir notre indépendance et financer nos actions. La Fondation pour le logement se dote aussi d'une nouvelle signature, un combat en héritage. Cette phrase ferait écho à la longue histoire de son combat depuis la mobilisation populaire historique de l'hiver 54, à la lutte menée depuis des décennies contre la précarité, le mal-logement et l'exclusion sociale. Je vous invite à réécouter en ligne notre reportage du 7 mars consacré au mal-logement chronique dans l'Hérault, 25 ans après la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Rappelons qu'en France, 2000 enfants dorment à la rue, plus de 350 000 personnes sont sans domicile et 15 millions de personnes sont touchées par des difficultés de logement. Une dernière information pour terminer ce Zoom Info. Samedi 22 mars, c'est la journée internationale contre le racisme. Je vous donne trois rassemblements. À Montpellier, à 14h30, rendez-vous au Pérou. À Béziers, à 10h, rendez-vous à la Devèze. Et à Pézenas, à 16h, rendez-vous place de la République. C'est la fin de ce Zoom Info. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée sur les ondes de Radio Pays d'Hérault, RPH Sud. We'll be right back.
Thank you.